WTO! Here's the promise! Down WTO!
Le grain de sable. Pensée globale. Une émission proposée par l'association Atacrone. Agir local. Le grain de sable.
Bonjour, donc bienvenue à l'émission Grain de Sable, donc l'émission d'attaque. Aujourd'hui, c'est un sujet sur les intermittents. Et on reçoit donc Lucie et Laetitia.
Bonjour.
Bonjour.
Donc voilà, donc pour nous parler un petit peu de ce qui est en cours, donc si de la réforme, s'il y a déjà des choses qui ont été votées, de tout ce qui est en cours, parce qu'on entend... On entend beaucoup de choses dans les médias sur ce fameux statut de privilégié, sur le fait que
cool,
que le fait que l'Unédic coule, on nous explique en gros que c'est la faute à 3% des bénéficiaires, c'est la faute aux intermittents. Donc voilà, donc pour un petit peu nous expliquer un petit peu tout ça, mais peut-être le contexte, parce que moi je me rappelle déjà en je crois que c'était en 2003 où il y avait eu des manifs. Je me rappelle des manifs de droite notamment. Donc voilà, si c'est possible de refaire peut-être un peu un historique qui nous expliquait ce qui a l'air d'être assez compliqué, qui est ce fameux statut des intermittents ou plutôt les annexes là 8 et 10 de l'UNEDIC. Donc voilà.
Oui, tout à fait. Ben, c'est pas un statut dans le sens où c'est une allocation chômage. Donc le statut de l'intermittent, c'est salarié comme tout le monde. Quand il travaille, il est salarié. Et quand ils ne travaillent pas, des fois, ils touchent du chômage. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de gens qui ne rentrent pas, malheureusement, dans le cadre de l'allocation et qui travaillent quand même dans le spectacle majoritairement. Et l'audiovisuel. Donc, voilà. En 2003, ce qui s'est passé, c'est qu'il existait donc une forme d'allocation chômage qui a été remise en cause. Donc, tout le monde se souvient de l'annulation, notamment, du Festival d'Avignon, qui était quand même le gros point marquant de la lutte. Et malgré ça, une réforme est passée qui a exclu énormément de, notamment d'artistes, et qui n'a absolument rien réglé effectivement sur le fond qui nous était reproché, puisqu'en fait, ça n'a pas résolu le problème des très gros salaires, etc. Donc ça, on l'avait dénoncé à l'époque en demandant qu'il n'y ait pas l'agrément, que ça ne reprenait pas des mesures efficaces, puisque on demandait effectivement un système plus solidaire et plus équitable, notamment pour les plus fragiles. Donc on n'a pas du tout été écoutés.
Et c'est reparti.
Et voilà. Et ensuite, ça a été reconduit en l'état. Donc, continuant le travail de SAP à l'intérieur des annexes. Et aujourd'hui, ils reconduisent, mais en modifiant légèrement certaines choses.
Donc, juste à l'époque, ça avait déjà servi à écrémer une bonne partie des gens qui, des plus précaires qui déjà galéraient un peu pour boucler leur statut et avoir leur nombre d'heures dans le temps imparti et tout ça. Donc, effectivement, ce que ça fait miroiter au départ, c'est que c'est pour rééquilibrer les choses et qu'en fait, ceux qui gagnent très bien leur vie, qui n'ont pas de problème pour boucler leurs heures, bah, ça continue. Et en revanche, ceux qui, les plus fragiles, qui ont moins de travail, hop, ça en fait sauter déjà une partie. Donc ça élimine une partie du problème.
Donc pour régler le problème, on n'a pas choisi d'essayer de faire quelque chose d'un peu moins inégalitaire, mais on essaye d'écrémer plutôt par le bas. Il y a moins de bénéficiaires possibles en fait.
Ben ouais, il y a moins de bénéficiaires possibles et puis après c'est insoluble. Hein. Même nous à l'intérieur, on se pose des questions comment aider à tout ça parce que on est plusieurs disciplines à avoir le même statut, mais on n'a pas dans la réalité le même travail, on n'a pas les mêmes possibilités. Du coup, comment satisfaire tout le monde ? Enfin comment oui, comment fonctionner tous au même régime, sachant qu'on n'a pas des réalités de vie qui sont les mêmes. Donc,
parce que par exemple, comme différents métiers, donc il y a quoi ? Moi, je connais, il y a comédien, il y a technicien, il y a d'autres catégories où ça regroupe plein de choses différentes.
Ben, ça regroupe tellement de choses différentes que déjà, ça regroupe le spectacle vivant et ça regroupe l'audiovisuel. Et à l'intérieur de ça, se décline tout un tas de métiers. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez vu circuler sur Facebook ces petits films, effectivement, si du jour au lendemain, les intermittents s'arrêtaient de bosser, ne serait-ce que pendant 24 heures, je pense qu'il y a deux, trois personnes qui se feraient chier un peu, parce que, effectivement, il n'y a plus de ciné, il n'y a plus de radio, il n'y a plus de télé, il n'y a plus de théâtre.
Si, oui, j'ai vu passer un truc où c'est un générique noir, en fait, et puis à chaque fois que t'as les noms, enfin, justement, t'as, je sais pas, un régisseur, machin, et puis t'as personne, quoi. Du coup,
t'as
plus rien.
C'est ça, il y a des comédiens, il y a des machinistes, il y a des techniciens, il y a de la production, il y a du décor, du, enfin, voilà, tout ce qui se voit et tout ce qui se voit pas, mais qui fait que ce qui se voit peut se voir. C'est compliqué, cette phrase.
Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal.
Du coup, j'ai déjà commencé à dégraisser, on part mal.
C'est pas grave.
Et concrètement, pour pouvoir bénéficier d'une allocation, faut faire combien d'heures, en combien de temps?
Alors, actuellement, c'est 507 heures en 200, enfin, en 10 mois et demi, selon qu'on est technicien ou comédien. Et ça fait partie des réformes qui découlent de 2003, puisque avant, on avait 12 mois pour faire ces heures-là. Et du coup, hop, déjà, en réduisant le temps, forcément, et ceux qui ont du mal à trouver leurs heures, vu qu'ils ont moins de temps pour les faire, hop, là, on se débarrasse d'une partie.
Et puis, en ajoutant, lors de la réforme de 2003, en fait, un fonctionnement flottant. Parce qu'en fait, on dit qu'on a 10 mois ou 10 mois et demi pour faire les 507 heures, mais la réalité, c'est que on a 243 jours d'allocation qui vont se décaler en fonction du travail qu'on fait.
Ah oui, c'est glissant.
Voilà. Donc, par exemple, quelqu'un qui a un problème au début de sa période d'allocation, en fait, il faut très vite qu'il résolve son problème. Et ça, on a des cas, hein, des personnes qui ont des arrêts de travail, maladie, qui sont pas pris en compte par la Sécu. Ça arrive assez souvent, notamment chez les artistes. Et qui du coup ne sont pas comptabilisés dans les heures Pôle emploi, etc. Donc ça peut créer des décalages de période. Donc quelqu'un qui travaillait bien avant puis qui a un petit souci de carrière, qui va se retrouver avec un décalage de période qui file à toute vitesse, parce que 243 jours c'est très très vite passé. Donc on dit que ça maintient à peu près, en ce moment on est arrivé à une sorte de statu quo. Il y a eu beaucoup de sorties sur 2004, 2005, 2006, beaucoup de sorties du statut sur les plus fragiles, comme tu disais. Aujourd'hui, en fait, on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre de la course. Donc, ceux qui se maintiennent à l'intérieur du statut, des fois, dérapent un peu pendant qu'ils courent, là, comme ça. Et hop, et puis ils sortent un mois et demi. Et puis ensuite, ils re-rentrent.
D'accord.
Voilà, donc ils ont plus d'allocation pendant un mois et demi, des fois un petit peu plus. Et puis, hop, ils arrivent à récupérer le truc, ils re-rentrent. Donc, du coup, on est arrivé sur une configuration qui a complètement changé dans le monde du travail. Cette allocation chômage, ça impacte énormément aussi les conditions de travail, parce que du coup, il y a beaucoup plus de courses au cachet, quoi, vraiment. Et l'incertitude de combien de temps je vais être indemnisé, qui met quelque chose, une pression qui existait peut-être un petit peu moins avant, même s'il y avait quand même la pression du temps, mais au moins on avait des repères dans le temps. Donc s'il y avait un petit souci à un moment donné dans sa période de travail, on se disait, il me reste tant de temps pour récupérer le truc et retrouver du travail, etc. Là, il y a une forme d'incertitude en permanence.
C'est compliqué à calculer, en fait. Avant, c'était par année civile, c'est pas ça? C'est
voilà.
Ça
c'était une date, ce qu'on appelle la date anniversaire.
Date anniversaire. Donc c'était plus simple d'arriver à se projeter, quoi.
Voilà, ça permettait aux gens d'avoir une petite vision quand même sur 12 mois et de savoir à cette date-là, le coup prétombe, mais en tout cas, j'ai jusqu'à cette date-là. Là, les 243 jours, si vous faites le calcul, ça fait moins que 10 mois ou 10 mois et demi. Donc, si
c'est,
on travaille
hyper
très
flou. Ouais, voilà. En fait, 10 mois et demi, c'est ce qui réellement correspond à 243 jours d'indemnité plus les fameuses 507 heures qu'on doit faire. Du coup, si réellement on boucle nos heures ric-rac, on est à 10 mois et demi. Mais déjà, 10 mois et demi, ça ne va rien dire. Enfin, si je te dis, c'est quand pour toi dans 10 mois et demi, le temps que tu comptes, enfin, voilà, c'est, donc, par rapport à une année, une date anniversaire qui est effectivement simple pour se projeter. Et effectivement, plus tu bosses, plus ça décale ta période. Bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails, mais si tu bosses suffisamment, si tu as la chance de bosser beaucoup, ça décale tellement que tu peux paumer des heures à la fin. Enfin, c'est archi compliqué. C'est déjà, voilà. C'est déjà compliqué à comprendre, à réaliser. Et là, il y a ce nouvel accord qui a été signé à nouveau et qui change encore le calcul et qui sous couvert de, encore une fois, on met un plafond pour que les plus privilégiés le soient moins et tout ça, et qui c'est encore un truc poudre aux yeux qui fait que les plus près, enfin, ça va toucher, je sais plus, c'est un pourcentage ridicule d'intermittents que ça touche.
Ah oui, c'est très, 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 très peu d'intermittents, ce plafond.
En fait, c'est genre 3000 personnes, enfin, c'est un truc.
Même pas, en fait. Parce que, souvent, les très gros salaires ne sont pas ou plus intermittents.
D'accord.
Voilà, faut le savoir, hein. Faut pas croire que les très grosses stars se fatiguent à remplir un dossier Pôle emploi, hein. Ils en ont pas besoin. Ils le font pas. J'en suis au stade à me demander si c'est pas un effet d'annonce, parce que c'est le seul chiffre qui est sorti dans la presse, c'est cette histoire de plafond. Comme si c'était contre ça qu'on luttait. Et comme si, en fait, ça touchait beaucoup de gens.
C'est ça.
Alors qu'en fait, ça ne touche personne.
Juste pour préciser, c'est un plafond à 5300 et des burettes.
Voilà.
Donc déjà, personne ne touche ça. Aucun intermittent ne gagne de sa part main. C'est vraiment ridicule. Et ceux qui ont la chance de pouvoir gagner ça, effectivement, ils sont pas indemnisés. Du coup, c'est vraiment pour faire une espèce d'annonce sauveur. Oui, on va taper là où ça fait mal, mais là où ça fait mal, il y a personne, hein, donc ça a rien de taper.
D'autant que, en fait, dans les revendications qui étaient portées, donc par une plateforme commune entre les coordinations, les syndicats, etc., il y avait ce plafond. Alors, je crois qu'il n'était pas exactement à ce niveau-là, mais il y avait cette histoire de plafond qui était demandée, mais parce que c'était associé à tout plein d'autres mesures, justement, pour permettre aux plus fragiles de réaccéder à une allocation chômage. Finalement, là, effectivement, ce plafond, je sais plus, j'ai eu les chiffres, mais enfin, comme je disais en off, je n'ai aucune mémoire des chiffres. Mais en gros, ça touche une très petite minorité qui, effectivement, bon, n'en a pas vraiment besoin. Et c'est pas eux qui sont dans la rue.
Qui étaient déjà... c'est déjà des gens qui, du coup, savaient que leurs droits étaient repoussés, qu'ils les touchaient pas. Enfin, voilà. C'est effectivement pas eux qui viennent manifester. En général, ils seraient malvenus qu'ils viennent se plaindre. Donc, voilà, normalement, ça
aussi, ils peuvent nous soutenir.
Pour solidarité, hein.
Ouais, moi, je suis pour la solidarité dans ce genre de cas. Même les plus riches avec nous.
Et du coup, dans la réalité des choses, l'autre mesure qui a été prise est une histoire de... C'est encore compliqué à expliquer. C'est des histoires de différer quand tu renouvelles ton statut. On avait des carences.
Ouais.
Voilà, donc des jours où tu n'es pas payé. Et là, la modification, si j'ai bien compris, la modification des calculs fait que c'est vraiment... les gens qui ont des moyens salaires qui vont être le plus impactés, et que ça peut tellement ça peut faire grimper un différé énorme, c'est-à-dire que les gens qui gagnent vraiment très bien leur vie, eux, leur différé, il sera même tenté de baisser, et les gens qui gagnent moyennement leur vie vont avoir un différé énorme, ce qui fait qu'en renouvelant tes droits, tu peux te retrouver avec un mois et demi, 2 mois sans salaire, enfin non, pas sans salaire, sans indemnité. Donc, il faut espérer pour toi que tu aies des dates à ce moment-là.
Que tu aies des salaires à ce moment-là, ouais. Parce que sinon, ça va commencer à être chaud.
Parce que c'est bien toute la problématique de ce métier, c'est qu'effectivement, on jongle entre nos salaires et les compléments assédiques. Et c'est ce que, et je comprends, hein, c'est ce que les gens ont du mal à saisir, c'est à quel moment on se dit en création, et que du coup, c'est des moments où on n'est pas toujours, où on n'a pas toujours de salaire et où les assédiques prennent le relais. Du coup, voilà, c'est compliqué à comprendre, et c'est aussi la difficulté, hein, je pense que ces accords soient signés, pondus par des gens qui ne connaissent absolument pas la réalité de ce métier. C'est valable dans à peu près tous les secteurs, mais dans celui-là, ça fait mal, hein.
C'est surtout que le problème, c'est que le MEDEF ne prend jamais en compte les propositions de ceux qui travaillent dans le secteur. Donc eux, ils y travaillent pas du tout, hein, et ils ont toujours des meilleures idées que nous, donc je sais pas comment ils font. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc ils ont refusé complètement de lire le texte. Alors, pour les histoires aussi de travail de répétition, des fois qui est pas payé, faut pas se voiler la face. Après, c'est vrai aussi que ça pose un autre problème, en fait, parce que les A8 à 10, c'est vraiment une allocation chômage. Donc c'est vraiment quand on travaille pas. La réalité fait que souvent, il y a énormément de gens qui sont tenus de répéter malgré tout, d'accepter de répéter pas payé, parce que c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a un déficit aussi du financement de la culture. Et ça, c'est le deuxième axe sur lequel on lutte beaucoup en ce moment. Enfin, Place des Terreaux, c'était pour l'ensemble du monde de la culture. Donc, bien sûr, il y avait les intermittents pour les allocations chômage, mais il y avait aussi énormément de gens qui étaient même des permanents de l'OPA, qui luttent pour qu'on ait enfin un vrai budget et une vraie loi d'orientation pour la culture. Parce que si on n'a pas ce volet-là du financement de l'emploi, bah, on est comme n'importe quel secteur économique. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de gens qui perçoivent un maximum de chômage parce qu'ils n'ont rien d'autre, parce qu'il y a moins de travail, moins de salaire. Et donc, ça creuse le truc. Moi, là, vraiment, là, ce qui me fait ma plus grosse inquiétude que j'exprime souvent en AG, c'est que pour moi, c'est une mécanique globale qui sape l'ensemble des fondements de notre système. Et quelque part, à la fin, les annexes, elles n'auront plus aucun sens, vu qu'on n'aura plus d'argent pour être salarié correctement. Donc, il y aura de moins en moins de gens dedans, à l'intérieur des annexes. Les quelques-uns très gros, ils n'auront plus aucun intérêt à être dans les annexes, puisque de toute façon, ils sont plafonnés, etc., etc. Donc, à la fin, il va y avoir quoi, 15 intermittents qui restent à l'intérieur. Donc, la prochaine réforme, ce sera plus facile à squeezer, hein, parce que là, il n'y aura plus personne dans la rue.
Ouais, et c'est vrai que du coup, ces réformes, il y a un truc où on est un peu acculé et qu'on en perd le combat initial qui est effectivement, oui, les budgets de la culture et qui nous permettent plus de créer. Et du coup, ça nous rabat sur un autre combat qui est effectivement, on veut garder nos allocations, mais on rêverait ne pas avoir besoin des allocations.
Bah oui.
C'est-à-dire que si on pouvait ne pas se battre pour aller gratter du chômage, moi, mon métier, c'est comédienne, c'est pas chômeuse, quoi. Donc, et du coup, ça pousse à combattre là-dessus. Et effectivement, ça a décalé le débat initial et important qui est effectivement, on n'a plus les moyens de créer. Et au regard de quoi, 3, 4, 10, 15 grosses institutions se partageraient le gâteau au profit de tous les autres. Et pourquoi eux, ils peuvent créer avec des budgets démesurés et que nous, on n'arrive pas à choper une petite subvention pour se monter un décor qui tient debout et pas finir à faire de la soudure tout seul dans notre garage, quoi. C'est, enfin, et effectivement, ça, du coup, ça a déplacé le combat et ça fait de nous des pingres, ça fait de nous des petits combattants de petits combats. Ça donne cette impression là. Et ouais, ça a décalé toutes les luttes.
Ouais, je pense qu'effectivement il faut dans les mouvements actuels, mais c'est ce qui ressort de plus en plus dans les AG actuels, c'est que il y a besoin de mettre du fond. On a besoin de sens, parce que là, lutter en permanence pour une allocation chômage, effectivement, ça peut paraître... Enfin oui, moi j'aime autant lutter pour avoir du boulot payé, concrètement, et en même temps lutter pour que les plus jeunes puissent rentrer dans le système de l'allocation chômage, parce que finalement, les plus fragiles aussi, c'est les petits jeunes là qui débarquent, hein, et qui se retrouvent à faire des petits boulots à côté, qui eux seront pas pris en compte dans la recherche d'allocation chômage, ou alors ils rentrent au régime général. Comme le régime général est pas du tout adapté à la profession, dès qu'ils travaillent, ça leur met un foutoir dans leur dossier, pas possible.
Moi, j'ai mis des années avant d'avoir mon statut, parce qu'effectivement, je pouvais pas avoir mes heures pour avoir mon statut, donc j'étais obligée de bosser à côté. Le fait de bosser à côté me foutait en l'air mon statut, j'avais pas suffisamment. Et du coup, pour rentrer dans le circuit, effectivement, une fois qu'on a commencé à mettre un doigt dedans, petit à petit, on se fait notre réseau et tout ça, même s'il y a l'incertitude de faire les heures, mais au moins, on a un pied dedans. Mais au début, pour mettre un pied dedans, c'est...
Oui, voilà, parce que c'est ce que j'avais entendu, quelqu'un qui ferait, par exemple, de la formation ou de l'enseignement, etc., dépend de la caisse générale, et du coup, c'est pas pris en compte, enfin, c'est vraiment très sectorisé. Et
alors,
du coup,
la formation, c'est particulier. On a droit, dans notre statut, à un nombre d'heures infimes de formation. C'est 52 heures, je crois, un truc comme ça.
Ouais, enfin, il y a une petite augmentation quand on est vieux.
T'as besoin d'être déformé, reformé.
Quand tu peux plus bouger sur un plateau ou que c'est vraiment moche, du coup, t'as le droit de donner des cours.
Et c'est quel âge, vieux, alors
Ça dépend de ton état physique. C'est ça, et ton état de décrépitude.
J'imagine que c'est des années de cotisation ou j'en sais rien, pas réellement par rapport à un âge.
Je répondrai pas parce que j'ai des copains qui ont cet âge-là, ils vont me tuer. Ah,
non, mais on a droit, sur notre statut, à déclarer 52 heures, je crois, d'enseignement, mais il faut que ce soit dans l'enseignement dans un organisme agréé formation. Donc, c'est-à-dire que si moi je vais donner des cours dans une asso, ce n'est pas comptabilisé comme enseignement. On n'a pas le droit d'aller donner des cours et de se faire payer en cachet. Si c'est le cas, il faut que ce soit dans un organisme agréé, organisme de formation. Je dis pas de conneries?
Ouais, il y a une légère ouverture là-dessus qu'on a obtenue par la lutte. Hein. En gros, depuis 2003, faut savoir qu'on n'a jamais lâché. Donc c'est vrai qu'il y a des petites micro-avancées qui ont permis, bon, je rentrerai pas dans les détails techniques, mais sous certaines conditions, on peut donner des cours dans des, même si c'est pas une école, mais si ça est financé par l'État. Enfin bon, on arrive à changer un petit peu des choses qui étaient particulièrement injustes, parce que finalement, le mec qui donnait des cours de maths, il pouvait faire prendre en compte ses heures et pas la personne qui donnait un cours de théâtre, qui était pas dans une école. Donc, ça faisait souci quand même. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui ont avancé quand même depuis 2003. Faut pas oublier que c'est, à chaque fois, ça a été des luttes et ça a été des occupations de Pôle emploi et ce genre de choses qui ont permis d'avancer là-dessus. Mais c'est vrai que la question de la formation donnée et reçue pose toujours souci, et notamment, moi j'élargirais plus la question en fait à la prise en compte d'un certain nombre d'heures du régime général, comme on appelle ça, pour notamment les plus jeunes qui vont faire du serveur dans un café pour gagner 3 francs 6 sous, et qu'au moins ils aient une petite partie de ces heures-là qui puissent être prises en compte lors de l'ouverture de leur premier droit en A8 à 10, parce que c'est vrai que là, à l'heure actuelle, c'est tout perdant. Donc c'est très compliqué pour eux de rentrer. Et c'est compliqué aussi quelqu'un qui a un accident de carrière, qui du coup se trouve un petit boulot pour survivre le temps de se remettre d'aplomb, et qui, pareil, va avoir le même problème qu'un petit jeune qui a 20 ans qui arrive. Et voilà. Donc nous, on avait dans la plateforme de revendication, il y avait notamment une partie là-dessus pour demander la prise en compte d'heures du régime général. Ce qui résolvait aussi le problème des heures d'enseignement, puisque comme les heures d'enseignement sont du régime général, ça les faisait rentrer de fait dans le système. Voilà.
D'accord. On va faire une petite pause musicale.
Des avions dans le ciel, je me disais toujours, je me demandais où est-ce que les gens partaient en vacances. Et maintenant que j'ai grandi et que je vois des avions dans le ciel, je me dis que les gens qui sont dans ces avions partent pas forcément en vacances. Y a pas de soleil dans les urnes, c'est comme ça qu'on prend froid. Découvert d'infortune, mais y a des lois, y a des jours de courant d'air, et c'est comme ça qu'on s'envole, comme dans les montgolfières, y a des vols au-dessus de la terre. Et je me retourne au pays, et qu'il est beau le chemin, je n'ai pas vraiment choisi, mais je reviens. Je reviens. Y a tant de filets dans la mer, et c'est comme ça qu'on se noie, comme dans nos vers solitaires. Y a des fois, et y a des voyages sans retour, et c'est comme ça qu'on revient pas, même en criant au secours. Y a des lois au-dessus de l'amour, et je me retourne au pays, et qu'il est beau le chemin, je n'ai pas vraiment choisi, mais je reviens. Je reviens. Y a trop de violence, y a trop de misère, et c'est bien pour ça qu'on s'en va. Paraît qu'il y a des frontières, moi je les vois pas. Paraît que les anges ont des ailes, je parie que ça pousse au printemps, comme les fleurs de Babel et ses feuilles en papier d'argent. Y a des jours de courant d'air, et c'est comme ça qu'on s'envole, comme dans les charters. Y a des tours gratuits pour l'enfer, y a des tours gratuits. Des tours gratuit pour l'enfer.
Donc c'était les becs bien zen et c'était y a des vols. Donc on continue à discuter un petit peu en off, donc pour discuter de comment on arrive à avoir le statut d'intermittent, du fait que c'est très compliqué. Donc du coup, ce que vous disiez, c'est que pour avoir des infos, bah, plutôt que d'aller voir le Pôle emploi ou des officiels, on va se renseigner auprès de collègues et d'intermittents qui ont réussi à comprendre les subtilités du système.
Les méandres,
oui.
Ben c'est ça, tu trouves quelqu'un qui est gentil, qui veut bien t'expliquer les calculs fumants du Pôle emploi pour savoir comment t'es indemnisé. Est-ce que, enfin voilà, c'est archi compliqué. Et effectivement, si tu veux avoir des réponses, mieux vaut aller voir des collègues que des gens du Pôle emploi. Par exemple, si tu les as déjà appelés au téléphone et que tu leur dis je suis intermittent du spectacle, il y a quand même un long temps de silence avant de dire merde, est-ce que je vais voir s'il y a un collègue qui s'en occupe.
Parce qu'il n'y avait pas justement où il n'y avait pas une cellule un petit peu pour les intermittents qui étaient en région, ouais, c'est ça, de soutien psychologique. Et du coup, qui va être recentralisé sur Paris, où il n'y a pas une histoire comme ça, non?
Alors moi, ça, j'ai suivi qu'à moitié. Ça devait sauter effectivement le Pôle emploi spectacle et finalement, oui. Il a un petit sursis, non?
Voilà. Alors, ce qui se passe en ce moment, qui n'est pas moins grave que la réforme, c'est que donc toujours de par la lutte, nous sommes arrivés à faire maintenir le Pôle emploi spectacle, donc spécifique pour les personnes qui ont recours aux A8 à 10.
Donc A8 à 10, c'est les annexes 8 et 10 de.
Ouais. Donc techniciens et artistes, et donc qui couvrent en fait le Rhône. Voilà, c'est le Rhône. Donc le Rhône est sauvé, nous sommes bien heureux.
Il faut venir à la frontière, il faut mettre un pied.
Voilà. En plus, c'est vraiment divisé pour mieux régner. Quoi. On arrive ici, voilà, le Rhône
est sauvé. Alors par contre,
déménagez pas les gars, c'est la merde.
La mauvaise nouvelle, c'est que tous les autres départements qui avaient des compétences locales, hein, puisque quand même, normalement, chaque agence Pôle emploi avait au moins une à deux personnes formées. Pas toujours très très bien, hein, mais en général ça faisait quelqu'un avec qui on peut discuter déjà. Donc tout ça va disparaître puisque depuis 2 semaines maintenant, l'ensemble des dossiers des intermittents hors Rhône, donc Savoie, Haute-Savoie, hein, Isère, Loire, Ardèche, Drôme, ont été transférés à Pôle emploi service, donc soit à Nanterre, soit à Annecy. Moi, a priori, le mien, je crois qu'il est à Nanterre. Après les dernières infos.
Donc ça veut dire que c'est contacté par téléphone ou par mail ou voilà, il n'y a plus personne.
Alors ils nous ont proposé, vu qu'on a tout de suite gueulé, ils nous ont proposé une super solution, c'est trop trop magnifique. Donc oui, c'est par téléphone et si vraiment parce que comme Pôle emploi service ne fait jamais d'erreur, il n'y aura pas de problème, c'est bien connu. Je vous passe les détails. Mais donc quand on arrivera à prouver qu'il y a eu une erreur et qu'il y a un vrai souci sur le dossier, ils nous proposent de régler le litige par webcam. Donc, quand on sait comment on peut s'énerver sur ce type de dossier, faites attention à vos ordinateurs. Hein, c'est pas la peine de jeter le clavier contre le mur, ça ne changera rien. Voilà. Ah,
putain, puis avec le petit délai qu'impose la webcam sur la discussion et tout ça.
Oui, ça va être très très bien, je pense. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi des grosses inquiétudes qu'on a parce que ça nous coupe encore un petit peu plus. C'est déjà très très difficile hein, quand on est face à des agents qui sont pas forcément hyper bien formés pour ces dossiers spécifiques. Mais déjà, quand on est dans le contact humain, c'est pas toujours facile, mais à force de nous voir dans notre Pôle emploi, ils finissent par savoir. Et puis ils osent plus dire, ben moi je sais pas, je le file au collègue, il sera là demain, etc. Alors que là, il y aura plus ça, et ça part tout à Pôle emploi service, qui est quand même Ouais, parce une officine plus, particulière.
Et puis tu vas voir quelqu'un, le lendemain, si tu réexpliques, si tu, tu rappelles, tu risques d'avoir de réexpliquer tout ton cas, du coup, si eux, ils s'entraînent sur toute la France.
Parce qu'il y a eu un moment, en plus, où on avait le Pôle emploi spectacle à Lyon, et puis il a disparu, ça avait été tout regroupé Pôle emploi voilà, général, et puis ils sont revenus à un Pôle emploi spectacle, donc c'est qu'à un moment donné, ils ont dû se dire quand même c'était utile, mais l'entre-deux où on était tous ensemble, moi j'ai eu des discussions ésotériques avec les mecs de Pôle emploi. Et puis ce truc fou que tu peux appeler ton trois fois, quatre fois d'affilée ou aller les voir et tu tombes sur trois ou quatre personnes différentes et tu as trois ou quatre réponses différentes.
Ah oui.
Et à un moment donné, tu dis bon, je suis, enfin voilà, mon problème n'est pas insoluble. Il y a forcément, mais il faut que les gens comprennent ce que je raconte. Et voilà, ils sont pas au courant. Et les mecs te disaient d'ailleurs, il y en a certains qui disaient les yeux pleins de terreur. Oh là là, mais moi je comprends pas le truc des intermittents, donc je vous passe un collègue. Donc ça, c'est dans le meilleur des cas. Moi, ouais, je vous passe quelqu'un qui sait ce qui se passe. Mais et voilà, et ça va recommencer. Le temps que les gens soient au jus. Donc c'est une gestion de dossier quand on sait le stress que c'est à chaque fois qu'on est en renouvellement, même sans parler des petits pépins qu'on peut avoir au milieu, mais un renouvellement, même quand tout va bien, même quand t'as une agence de Pôle emploi spectacle, même quand tu es sûr d'avoir tes heures, il y a toujours un moment donné où tu te dis voilà, pourvu que ça passe, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? C'est vrai, il y a toujours un pépin, il manque toujours des papiers, il faut toujours recontacter. Enfin, il y a toujours un truc où c'est la merde et où on t'entend des gens là, bah ouais, moi j'ai pas été payé pendant, ça fait trois mois que j'ai pas eu d'acédic. Ah bon? Bon, ben voilà, t'as intérêt à avoir du boulot dans ces moments-là. Et c'est ce qui risque de se produire du coup avec le.
Ah bah
le
oui.
Le fameux différé.
T'es à son Pôle emploi service. C'est une grosse machine. Donc c'est une très très grosse machine qui jusqu'à présent était plutôt une machine à exclure, hein, puisque c'est service prévention des fraudes. Donc c'est plutôt des gens qui sont habitués à éplucher les dossiers pour chercher où est-ce qu'ils pourraient accuser quelqu'un de quelque chose pour suspendre les droits. Chose qu'ils font assez régulièrement, même sans preuve. Donc des fois on arrive à débloquer des dossiers, des fois non. Voilà. Ils aiment beaucoup faire des recherches Google aussi. Donc je me dis, avec tout ce travail déjà qu'ils ont...
Ils cherchent quoi sur Google?
Ils cherchent, par exemple, quand ils ont un dossier de quelqu'un, où ils se sont dit, tiens, elle, je vais l'éplucher. Ben, ils recherchent sur Google si jamais, des fois, il n'y aurait pas le nom de cette comédienne qui apparaît comme contact. Parce que si elle apparaît comme contact, c'est peut-être qu'elle est, elle n'est pas réellement salariée, en fait. Peut-être bien que, en fait, c'est quelqu'un qui triche, qui fraude, parce qu'elle est sa propre employeuse, par exemple. Donc, il peut arriver à tout le monde que on soit une fois porteur de projet, par exemple, sur une compagnie. On est déclaré en metteur en scène, donc tout est légal. Sauf que le numéro de téléphone reste en bas de la page du projet en question. Ben, ça peut bloquer les droits. Après, on peut démontrer, hein, on peut lutter, mais ça va prendre 3-4 mois à débloquer la situation. Donc, ce qui est très difficile aussi, c'est qu'en général, on est accusé sans savoir de quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on est accusé parce que les droits sont suspendus. Et quand on appelle, ils disent « Vous êtes sous le coup d'un contrôle mandataire ». Alors les gens « Un contrôle mandataire, qu'est-ce que c'est ?» Donc en général, on reçoit des coups de fil paniqués. Donc un contrôle mandataire, c'est très simple, on pense que vous êtes votre propre employeur. Donc en général, on reçoit des papiers auxquels on peut pas du tout répondre. Parce que qui a la signature sur les comptes de la compagnie machin ? Ben, j'en sais rien, moi je suis comédienne. Voilà, c'est ce genre de document. Ben, forcément, on répond pas à ces questions-là. On répond aux questions auxquelles on peut répondre. Et puis, en général, ça bloque les droits. Tant que le dossier n'est pas complet, on peut pas débloquer les droits. Et puis, petit à petit, ils creusent. Voilà. Ils font leur travail sur Google. Voilà, ils regardent, tapent le nom, ils cherchent toutes les preuves. Donc voilà, nous on se retrouve vraiment avec des sortes de procès d'intention. Enfin, on est un peu au Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de défense possible. C'est très difficile de leur faire changer d'avis. On y arrive des fois, mais c'est très très difficile.
Et que chaque suspicion est actée par une suspension de droit. Donc effectivement, voilà. Le temps que
mais
tu te défends...
Il n'y a rien de suspensif, quoi. Ça pourrait être suspensif à la limite. Mais
Le temps que tu te défends, en tout cas, faut que tu te démerdes.
Voilà, il n'y a pas de droit versé pendant cette période-là. Donc c'est, ça donne des situations assez difficiles.
Oui, ils ont même des techniques d'interrogatoire assez particulières. Enfin, je veux dire, ils peuvent carrément convoquer pour poser des questions aux gens sans qu'ils puissent être assistés d'un conseil ou de quelqu'un. Enfin, en tout cas, ils ne préviennent pas. Et puis, avec un mec qui est en face, et puis un autre qui est derrière, et puis il y en a un qui pose la question, l'autre qui pose la question derrière, pour déstabiliser. Non, mais on en vient des trucs complètement fous. Même les flics, ils font pas ça, quoi. Mais Pôle emploi service, ils le font. Donc, c'est vrai que c'est pas très rassurant que Pôle emploi spectacle soit raccroché à Pôle emploi service, quoi. Ça fait un peu flipper, quand même. Hein.
Je tremble. J'ai l'impression que c'est la quatrième dimension.
Oui, ça fait un peu la quatrième dimension. Ben, Pôle emploi service, bon, moi, j'ai pas eu de cas d'interrogatoire en direct. Hein. Moi, tout ce que je leur reproche vraiment concrètement, c'est qu'on peut pas être dans le service. Parce que c'est ça, hein, c'est un service public, normalement, les personnes qui travaillent à Pôle emploi. Et les personnes qui travaillent sur l'indemnisation, c'est comme les personnes qui travaillent sur la recherche d'emploi. C'est des personnes qui travaillent dans le service public. Comment on peut être dans le service public quand, en fait, on est une machine dont le but, c'est de faire du chiffre sur l'exclusion et où on respecte même pas le droit français, parce que dans le droit français, normalement, on est présumé innocent. On n'est pas aux États-Unis chez nous, donc normalement, on est présumé innocent. Chaque fois que je suis allée à des rendez-vous avec Pôle emploi, région et services réunis, à chaque fois je leur dis, et c'est pour quand la présomption d'innocence, ça les fait marrer. Voilà, donc j'ai arrêté d'y aller. Mais, non, mais sincèrement, parce que moi normalement quand je fais le clown, je suis payée. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de très inquiétant et qui raconte ce que je disais au début, c'est-à-dire pour moi il y a vraiment un travail de sable, de fond. Ils n'ont pas besoin de faire une énorme réforme de l'allocation chômage pour nous dissoudre, on va dire, entre guillemets. Ils ont besoin de taper un peu de partout. C'est plus simple, parce qu'ils ont bien vu en 2003 quand même qu'on était capable de beaucoup. Donc le plus simple, c'est d'attaquer un petit peu partout les côtés. Et voilà, et c'est un petit peu comme un château de sable, et puis on creuse en dessous, et il va s'effondrer tout doucement. Tout
et seul. C'est vrai que pour la plupart, c'est un boulot qui, c'est un statut qui est stressant. C'est d'une année sur l'autre, tu peux pas te projeter à plus de 10 mois et demi et 243 jours d'indemnité, ce qui
peut-être des calendriers avec 243 jours.
J'ai exactement des calendriers à 243 jours, c'est dur pour se projeter. Enfin voilà, c'est déjà un truc qui est stressant, qui est angoissant, et effectivement des espèces de micro-attaques de soutien, de béquilles qui te sont enlevées régulièrement, c'est un truc qui, genre, moi je connais plein de gens qui étaient partis dans ce métier et puis qui ont bifurqué parce que non, c'est trop dur, c'est trop d'incertitude.
C'était pas pour cette pression était insupportable,
ouais,
quoi.
C'est-à-dire ouais. Qu'après il y a des gens normaux qui ont envie d'un futur normal et qui ont envie de choses folles comme acheter une baraque et faire des gamins ou j'en sais rien, et que c'est juste tous les 10 mois et demi t'as une espèce de coup près de trucs flippants et que voilà quand 3 ou 4 mois sur 10 mois et demi, tu t'es passé à essayer de te justifier auprès de Pôle emploi et de récupérer tes thunes parce qu'ils ont tout suspendu, ça fout un sacré coup dans ta vie de tous les jours, dans ta vie de famille. Enfin voilà, c'est effectivement un travail de sape au quotidien et que c'est, je comprends que c'est pas un métier mais un statut qui correspond pas à tout le monde et ouais, c'est particulier, quoi. Et c'est pour ça que je disais que ouais, il y a un truc du combat de base qui a été effectivement délocalisé vers de la petite chose, enfin du matériel qui fait qu'on s'éloigne de ce pourquoi on a décidé de faire ce métier. Et t'as attaqué l'émission en disant on va parler de ce statut d'intermittent dont on parle beaucoup et tout ça, mais ça y est, on n'en parle plus, hein. Enfin, je veux dire, on en a parlé parce qu'il y a ça aussi, c'est que on dépeint le tableau très rapidement, tout de travers, n'importe comment, à des gens qui connaissent pas le statut, qui est déjà hyper compliqué même quand tu travailles dedans. Du coup, c'est présenté comme oui, ils doivent faire 507 heures, en 10 mois et demi, et ils gueulent, donc les gens ils comptent, ils disent 507 heures, ça va, ils vont s'en sortir quand même. Et voilà, et puis après on en parle plus, donc voilà, nous on essaye effectivement de continuer à lutter au quotidien, mais c'est pas un truc effectivement après on est obligé d'en venir à des trucs énormes pour bloquer C'est voilà, c'était ce qui s'était passé à Avignon. C'est pour que les gens se rappellent. Mais je trouve qu'on a une façon de présenter les choses qui fait que on se met beaucoup de gens à dos et qui cherchent pas plus que ça à comprendre la réalité de notre boulot. Pour eux,
voilà. Bah, comme dans beaucoup de domaines, je pense que tu montres pas la problématique et la complexité. C'est plus facile de balancer trois chiffres et d'expliquer qu'effectivement, du coup, tu compares des choses qui sont pas comparables et du coup, tu peux, tu sous-entends qu'il y a des privilégiés, qu'effectivement, ils sont. Mm-hmm. Mais par exemple, du coup, l'annulation d'Avignon, ça avait fait bouger. Enfin, parce que par exemple, je suppose que pour Avignon, la région, etc., ça a dû être en termes économiques. Là, tu t'aperçois que, bah oui, la vie culturelle, ça ramène du monde, ça fait vivre toute une région, toute une ville. Du coup, ça a eu un impact, ça a fait un petit peu prendre conscience ou. Mais comme l'année d'après, ça va, on a oublié qu'on avait eu une saison morte ou.
En fait, sur le coup, déjà, faut pas oublier qu'il y a énormément de compagnies qui en ont souffert. Hein. Ça a été très dur. Ça a été très dur de le voter et ça a été très dur de le vivre. Parce qu'il y a vraiment des gens qui se sont retrouvés dans des situations pas possibles. Donc, on avait des caisses de soutien, mais ça suffit jamais. Donc, les premiers qui en ont souffert, finalement, sont les artistes eux-mêmes. L'aspect positif pour moi de ça et pourquoi ça valait le coup de le faire, c'est qu'effectivement pour la première fois on a parlé du fait qu'une ville vivait essentiellement de ce festival, c'est-à-dire que à Avignon il y a plein de
son image
plein
à part les papes, voilà. Mais ça commence à dater un peu,
voilà.
Dans la danse sur le pont, ok, ça date un peu, sinon Avignon c'est le festival, c'est le théâtre, quoi,
c'est ça, et c'est ça qui fait vivre pour une grosse partie, hein, les commerces,
les restaurateurs, voilà. Les hôteliers, tout ça, ouais.
Mais c'était la première fois, parce que ça faisait des mois et des mois, hein, quand on est arrivé sur Avignon, ça faisait des mois et des mois et des mois qu'on luttait, je veux dire, on avait occupé l'opéra de Lyon avant, enfin voilà, ça faisait quand même un moment qu'on hurlait dans les rues notre désaccord, mais personne, quelque part, nous écoutait vraiment. C'est-à-dire, oh là là, c'est privilégié quand même. Gna 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 gna. Bon, Avignon, ça a posé comme un coup près. C'est-à-dire que d'un coup, ça a été la cata économique pour une ville. Et donc, les politiques s'en sont emparés. Parce que d'un coup, ils ont fait les calculs, ils se sont dit, en fait, la culture produit de la richesse. Concrètement, pas que de la richesse tralala, mais de la richesse concrète. Donc eux, ça c'est devenu.
Non, c'est bien le concept de richesse tralala et de richesse.
Oui, c'est ça.
De la richesse CAC 40, quoi, tu vois.
Voilà, mais c'est ça. C'est eux, ça. C'est ce qui leur a parlé. Alors que, bah, pour moi, ce qui compte le plus, c'est pas est-ce que le bistrotier du coin il fait son beurre quand je joue, même si ça m'intéresse, si je l'aime bien et qu'en plus il est sympa. Enfin voilà, pourquoi pas. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que la culture ne se résume pas à ça non plus. Et ce qu'on apporte à une société ne se résume pas à ce qu'on fait gagner dans un hôtel, restaurant ou ce genre de choses. Mais l'annulation d'Avignon a fait cette prise de conscience qui a fait que quand même aujourd'hui, quand il y a une attaque portée contre les intermittents, on a toujours des députés, des gens qui ont réfléchi à la question, qui sortent des chiffres, qui nous défendent, en fait. Ce qui n'était pas tellement le cas avant, en fait. Donc, ça a changé ça. Ça a changé ce regard économique. Nous sommes une richesse. Ça, c'est beau, quand même.
Bah oui, parce que du coup, c'est un argument de poids dans cette jolie société.
Oui, oui. Après, je pense que charge à nous aussi de démontrer que c'est pas que ça. Parce que la culture, elle est attaquée sur tous les côtés et c'est pas que parce qu'on rapporte un peu des sous voilà, au bistrotier qu'il faut nous défendre, c'est aussi parce que la culture est quelque chose d'important dans une société. Enfin, moi, pour moi c'est surtout ça, oui, la raison, et que sa diversité, c'est sa diversité qui crée la richesse, en fait. Voilà, faut pas oublier qu'Avignon, ben, ça marche beaucoup aussi avec la diversité des spectacles qu'il y a dans le off. S'il n'y avait plus du tout de off, ne serait-ce que ça, parce que c'est là où les gens sont le moins bien payés.
Mais c'est là où ça rapporte de l'argent,
voilà,
à la ville.
Il y aurait beaucoup moins d'argent pour la ville, parce que finalement, il y aurait une petite catégorie de spectateurs qui iraient dans le IN, qui ont les moyens de se payer que des soirées du IN, mais finalement, ça représenterait très peu de gens. Et la majorité des gens, ils viennent parce que c'est animé toute la journée dans la rue et que de temps en temps, ils peuvent se payer un petit spectacle dans le off parce que c'est un peu moins cher. Et puis, ils se font une soirée IN pour ceux qui ont bien économisé avant. Et voilà. Donc, toute l'économie de ce festival est orientée, mine de rien, sur la diversité. Et c'est ça qu'on défend. C'est-à-dire que on a besoin d'argent public, notamment, pour maintenir cette diversité. On a besoin d'un aiguillage de cet argent public par le biais d'une loi d'orientation pour maintenir et développer cette diversité dans des vraies conditions de travail. Et l'allocation chômage vient en complément, non pas pour payer des répètes pas payées, mais pour permettre aux gens entre deux contrats de continuer à vivre décemment, et quel que soit finalement le champ artistique dans lequel ils s'expriment, et quelle que soit l'importance des employeurs. Voilà.
Parce que tout à l'heure, tu parlais de, justement, tu disais que le MEDEF, finalement, qui travaillait pas dans le secteur, propose en fait des choses qui correspondent pas du tout à vos statuts, et que vous aviez des choses en fait à proposer, et c'est quoi vos propositions concrètes ?
Ouais, je vais pas rentrer dans le champ technique,
enfin, les grandes lignes, quoi.
Alors, les grandes lignes de la plateforme de revendication, c'est le retour donc à une date anniversaire, donc 507 heures sur 12 mois, la prise en compte d'une partie des heures du régime général, pour justement ce que j'expliquais au début. Il y avait le plafonnement quand même aussi, pour un petit peu baisser sur ceux qui touchent beaucoup, même si de toute façon ça touche pas énormément de gens, donc ça changera pas grand chose pour eux, mais ça permettait quand même de réajuster certaines choses. Voilà, dans les grandes lignes, c'est ce qui me vient. Après, on peut aussi revendiquer qu'on ait des vrais pôles emploi spectacle partout, mais ça, on n'y est pas encore.
et peut-être rééquilibrer, parce que vous expliquez qu'il y a vraiment des différences entre peut-être des scènes nationales, régionales, et puis le reste qui est plus des compagnies ou que les subventions sont pas forcément réparties de façon équitable.
Oui, alors ça, c'est plus auprès du ministère de la Culture.
Ça, c'est le ministère de la Culture qui aiguille comme ça ses subventions, en fait. C'est quoi? C'est la DRAC, non? C'est...
Voilà, nous, en région, ça va être la DRAC. Mais en fait, là, c'est un combat qui se mène notamment auprès du ministère directement, puisque s'il y a une loi d'orientation qui doit sortir, depuis le temps qu'ils nous la promettent, ils vont bien finir par la faire. Déjà, il faudra voir ce qu'il y a dedans. Et deuxièmement, elle sera produite directement au niveau du ministère. Nous, avec les DRAC qui reçoivent l'argent et puis ensuite ils le répartissent suivant les recommandations, quoi. Voilà, ils ont les petits tableurs avec les lignes L1, L2, L3, tout ça, machin. J'arrive pas à retenir les chiffres. C'est mon leitmotiv. Mais voilà, eux, en gros, on leur donne une enveloppe et puis ils la dépensent comme ils peuvent. Là, ça fait depuis l'année dernière qu'il y a un gel, enfin, ça fait plus longtemps qu'il y a un gel. Il y a un gel de 7% du budget systématique, au cas où. Voilà, c'est le gel du haut cas où. Voilà. Jusqu'à présent, il était dégelé. Tu vois, comme tout gel, il dégèle au printemps. Bon. L'année dernière, c'est la première année où il n'a pas été dégelé.
Ouais, c'est l'ère glaciaire qui commence, quoi.
Bah, voilà. Donc, on a compris qu'il y avait un problème avec le changement climatique actuel et qui touche durement le spectacle. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont arrangés pour que ça ne se voit pas, parce que du coup, le ministère en catastrophe a remis des fonds comme il peut, etc. Donc, ça masse la misère. Mais la réalité, c'est que déjà qu'on a un ministère où le budget est quand même pitoyable, hein, on est bien loin des 1% de la grande époque, 1% du budget global. Non, là on est largement en dessous. En plus, on nous gèle 7% sur les enveloppes distribuées.
Si tu gèles et tu dégèles pas, comme tu dis, du coup, ça veut dire que tu as diminué ton budget de 7%, ouais. En gros.
Voilà, ils sont arrivés à par un tour de...
Passe-passe.
Alors, je sais pas, il doit y avoir des caisses spéciales dans les ministères où ils peuvent aller gratter 3 francs 6 sous. Ils ont peut-être passé le chapeau. Ouais, c'est peut-être ce qu'ils ont fait lors d'une assemblée.
Non, je crois qu'il y a que chez nous que ça joue au chapeau.
Donc, en tout cas, voilà, c'est ce qui nous a été expliqué. On a redistribué les fonds autrement. Donc, en gros, ça s'est pas trop vu sur la DRAC Rhône-Alpes, en tout cas, ça s'est pas trop ressenti. Mais la réalité du truc, c'est que ça fait des années et des années que ça marche comme ça. C'est la première fois qu'il n'y a pas eu de dégel. Là, on a à nouveau le gel des 7%. On est au printemps. J'attends la bonne nouvelle. On verra si les jonquilles refleurissent. Mais même quand il y a des gels, il n'y a pas d'augmentation du budget. Or, ne serait-ce qu'avec le système de l'inflation, donc comme ça fait 10 ans que le budget de la DRAC Rhône-Alpes n'a pas augmenté, je vous laisse faire le calcul avec l'inflation qu'on a eue. En gros, il y a moins d'argent. C'est mécanique.
Et du coup, ça rend les théâtres et les programmateurs vachement frileux. Et du coup, ça resserre le champ de diversité de ce qui est proposé. C'est-à-dire que du coup, les programmateurs et les salles
ne peuvent pas se permettre d'avoir un truc un peu plus original qui ne marche pas forcément.
Ils programment de la grosse artillerie, de la tête d'affiche, pour être sûr de remplir, parce que déjà les subs sont serrés et tout ça. Et à un moment donné, ils ont des grosses subs, mais ils ont aussi des grosses dépenses qui vont avec les prétentions de leur lieu et la la taille de leur lieu, et du coup c'est aussi du coup ça les rend très frileux à proposer des choses qui sortent un peu du cadre ou un peu moins connues, et du coup petit à petit c'est en train de se cloisonner, se scléroser et de voilà d'aller vers du plus en plus petit, et du coup deux trois trucs qui ont le monopole et qui se partagent le gâteau. Mais c'est vrai que du coup on va vers un appauvrissement de la diversité culturelle de ce qui est proposé, et par tout un tas de biais. Du coup, soit en écrémant le nombre d'intermittents, soit en démoralisant, soit en favorisant que certaines structures, soit en tout cas sans favoriser certaines structures, en n'aidant pas à développer des plus petites.
C'est vrai qu'on est dans une période où justement on est dans une forme de gel, quoi. C'est-à-dire que les choses bougent peu, les gens se cantonnent à ce qu'ils savent faire, à ce qui peut se vendre. Alors on voit fleurir les solos et les duos tant qu'on veut, parce c'est que ça. Ça, on peut à peu près encore le vendre, mais il faut pas dépasser 4 personnes sur le plateau. Là, ça devient c'est ingérable. Et puis, il faut savoir aussi que les départements, hein, comme ils ont récupéré des compétences qui n'ont pas forcément été financées par ailleurs.
Ils n'ont pas forcément les moyens.
Voilà, qui c'est qu'ils. Enfin, voilà, où est-ce qu'ils réduisent? Ben, notamment les subventions qu'ils pouvaient donner au théâtre ou à ce genre de lieu, donc les théâtres de ville, etc., qui sont impactés, qui, en Isère, ils ont eu moins 20 ou 30% de subventions du département. Donc, forcément, ils ont une boutique à faire tourner avec des salariés à l'intérieur. Donc, ça. Ils arrivent encore à le gérer, mais toute la part création, justement, payer des artistes pour venir faire une création in situ ou ce genre de choses, ils ont plus les moyens. Donc c'est tout l'emploi artistique qui est impacté, et les salaires n'augmentent pas depuis très longtemps. Sur tout ce secteur qui est un petit peu le maillon, le maillage théâtre de ville et tout ça, est de plus en plus en difficulté, et donc il a de plus en plus de mal lui-même à accompagner des artistes dans leur développement, alors qu'à la base c'était fait pour ça. C'était pour pouvoir accueillir des jeunes compagnies en création aussi. Ces théâtres de ville, rencontrer le public. Et ça, on ne peut plus le faire, parce qu'il n'y a plus les sous dans ces lieux-là pour le faire. Donc oui, on voit que c'est un système économique qui est vraiment en train de se casser la gueule. Donc si on n'a pas rapidement une réponse d'un ministère qui dit « Ok, on fait une loi d'orientation, on va essayer de trouver des solutions avec les sous qu'il y a, soit. » Puis je pense qu'on peut commencer à faire la quête, passer le chapeau, tout ça, à la sortie des ministères. On devrait récolter 2-3 francs 6 sous en plus, hein, ça ne devrait pas être difficile. Mais il n'empêche qu'on a vraiment besoin de ça, on a besoin qu'il y ait une vraie politique de la culture.
Et du coup, c'est pour ça que paraît encore plus injuste et dérisoire ces réformes et ces accords signés où du coup ça sabre encore des gens qui essayent de créer. C'est effectivement le problème est pas là, et du coup on parle des intermittents sur ce truc là, et du coup ça accentue, enfin ça donne cette image de privilégiés qui se plaignent, alors que quand même c'est un luxe de pouvoir vivre de son métier, et c'est un luxe de pouvoir vivre des métiers de la culture. Sans culture, politiquement, on est mal, quoi. Vraiment, moi, j'ai pas envie de vivre dans une dictature, j'ai pas envie de vivre, enfin, voilà, c'est arriver à faire comprendre que c'est, effectivement, ce n'est pas du luxe, on n'est pas là juste pour décorer comme on décore une pièce, quoi. C'est... J'ai envie de pleurer.
Non!
Je suis nulle en lutte, moi, parce que je me décourage vite.
Mais non! Faut transformer la tristesse en colère, c'est tout.
Non, mais c'est vrai. Du coup, ça donne une image restrictive et pingre de la lutte des artistes, je trouve. Ça la réduit effectivement à un truc économique de oui, comme on est acculé, ça nous réduit à juste défendre notre steak pour pouvoir bouffer. Et effectivement, la lutte est bien plus vaste si on veut que ce soit riche et qu'il y ait des échanges, mais je comprends que dans une situation actuelle, les gens se disent que c'est pas le plus important, quoi.
Oui, en même temps, c'est l'ensemble de l'assurance chômage, hein, qui a été réformé et
oui, avec les mêmes principes.
Oui, aussi, oui,
on sabre autant qu'on peut et
oui, oui.
Voilà, les intérimaires ont pris cher, sans faire de rimes faciles, mais donc. Je dirais qu'en tout cas, le combat sur l'allocation chômage, il est plus global que pour les A8 à 10, qui sont bien impactés, mais on n'est pas les seuls.
Oui, oui, c'est ça. Nous, on réagit parce que ça nous concerne directement, ouais. Mais effectivement, il n'y a pas que nous. Hein.
Et ce qui est surprenant, c'est justement de se dire pourquoi est-ce que tout le monde ne descend pas dans la rue, alors que ça concerne tout le monde, le chômage. Hein. Ben, on peut se croire à l'abri quand on a un travail, mais globalement, tout le monde sait que dans sa vie, il y a des chances qu'il aille au chômage un jour ou l'autre, même avec un CDI. Enfin, c'est très rare les gens qui.
Puis
peuvent...
De fait, on est de plus en plus nombreux en ce moment. Voilà. Donc, normalement, on devrait pouvoir prendre le pouvoir et faire entendre notre voix.
Oui, non. Voilà.
Si on en croit les chiffres qu'on nous annonce, normalement, on est de plus en plus nombreux pour se serrer les coudes.
C'est ça
qui est chouette.
Ouais, j'avais vu une photo avec 5 personnes derrière une banderole où il y avait marqué chômeur en grève et je trouvais ça très très bien. On aurait, tous les chômeurs devraient faire ça, quoi. Les jours où ils travaillent pas, chômeurs en grève. Mais voilà, c'est très difficile à comprendre pourquoi il n'y a pas une mobilisation, alors que c'est vrai que ça touche un champ qui peut potentiellement toucher tout le monde. Qu'en plus, c'est nos salaires différés, hein, c'est nos cotisations salariales qui sont prises dans cette nasse-là gérée par le MEDEF. Et ils n'écoutent jamais ce qu'on leur demande de faire. C'est-à-dire que même si le syndicat est reconnu comme étant le plus gros syndicat de salariés, blablabla, ils posent un truc. MEDEF, il fait j'ai pas le temps de le lire, pof, il met poubelle et puis il sort le sien. Alors, c'est pas des négociations, ça. Enfin, voilà. Ça pose la question quand même de comment sont négociées les choses. Ça pose la question de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas tous les chômeurs dans la rue pour hurler on s'est foutu de notre gueule, personne n'a lu ce qu'on avait pondu. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose où je pense qu'il faut penser plus loin. Nous, dans le système de la culture, il faut penser plus général avec les financements. Parce que ce qu'on a vraiment besoin, c'est de l'emploi et d'un système d'allocation chômage adapté, mais aussi d'emplois payés décemment. Et en face, pour les autres demandeurs d'emploi ou privés d'emploi et précaires, c'est pourquoi est-ce que ces négociations se sont passées comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne nous écoute pas et pourquoi on fait n'importe quoi avec nos cotisations? Ça devrait être ça, les questions qui se posent aujourd'hui.
Il y a un garde-fou.
Notamment, qu'en tout cas, un ministère ne puisse pas agréer un texte qui a été signé dans des conditions incroyables, puisque ça s'est joué dans les couloirs. Enfin, c'est plus une négociation, quoi.
Mais justement, ça doit être voté par le MEDEF et par un certain nombre de syndicats, non?
Ça a été signé, déjà. Ça a été signé, donc, par le MEDEF, par la CFDT, par FO. Il y en a un autre, et la CFTC, je crois.
Et donc, du coup, vous, syndicat des intermittents, en fait, vous êtes raccroché à un autre gros syndicat, ou du coup, vous donniez un avis ou pas sur ces annexes-là, c'est pas pris en compte?
Alors, nous, en fait, on est donc le syndicat français des artistes interprètes, donc il y a des permanents aussi dedans, donc on n'est pas le syndicat des intermittents, et on est rattaché à la Fédération du spectacle CGT,
d'accord,
qui, elle, a un représentant qui a siégé, effectivement, lors des négociations. Donc c'est aussi par lui qu'on sait exactement comment ça se passe. Et c'est vrai que disons qu'en démocratie, je veux bien qu'on soit pas d'accord avec moi. Je veux bien qu'il y ait des syndicats qui disent les intermittents, on en a marre, on signe n'importe quoi qui sort sur eux, ça va bien. Moi, je veux bien qu'on soit pas d'accord avec moi. Mais on respecte la démocratie, on respecte les gens, parce qu'il y a des vrais gens derrière, avec des vraies vies, avec besoin de cet argent-là, besoin de ces allocations chômage-là. Et qu'on les traite comme ça, c'est-à-dire qu'au final, on sorte de la négociation à midi, qu'on revienne jamais à la table de la négociation et qu'en fait, on apprenne que tout s'est joué en couloir et que comme par magie, tout le monde à minuit 35 s'est mis d'accord. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui s'est négocié du coup dans ces couloirs? Comment on peut savoir ce qui s'est passé? Personne ne peut le savoir, vu que c'est juste entre toi et moi, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça se trouve, c'est très très bien ce qu'ils se sont dit, mais ça se trouve, c'est tout pourri. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit autour d'une table où il y a tout le monde présent et tout le monde peut être témoin de ce qui s'est dit. C'est ça la démocratie. Et je vois pas comment un ministère peut accepter ça. Donc là, c'est pour ça qu'on lutte contre l'agrément. Parce que la prochaine étape, c'est que le ministère du Travail, notre nouveau ministre du Travail, doit donner sa signature. Donc nous, hier, on est allé à la Direc, qui sont donc les représentants locaux du ministère du Travail, pour que la première chose qu'il ait sur son bureau en arrivant, c'est un fax des intermittents, ne signez pas. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc on a fait ça.
Et le prochain rendez-vous, c'est quand alors? C'est pas le 10 avril, non? C'est ça?
Non, alors il y a un rendez-vous le 8.
Le 8.
Voilà, pour une action dont j'ai pas encore l'horaire, on est encore en train de préparer.
C'est sur Lyon, sur Paris?
C'est sur Lyon. Alors sur Paris, il y a quelque chose demain. Voilà. Puisque y a tous les ministres de l'Europe qui sont réunis dans un même lieu. Donc c'est un peu facile.
C'est pratique.
Hein. C'est vrai.
Centralisation.
Voilà, voilà.
Donc, du coup, il y a un site du syndicat où on peut aller choper des infos.
Alors en ce moment, enfin du syndicat Rhône-Alpes, non, parce que on n'est pas pas doué pour les sites internet. Mais il y a un Facebook du collectif unitaire qui s'est créé, donc avec les syndicats, avec les syndicats précaires et privés d'emploi du Rhône, et avec des non affiliés. Donc c'est une sorte de, ça s'appelle un collectif, c'est une sorte de coordination en fait.
Bah, si vous pouvez nous faire passer les liens et puis on le mettra sur le blog à côté de l'émission en fait.
Ouais, tout à fait. Donc c'est
sinon,
le
on va faire
collectif.
Des ouais.
Non, collectif unitaire 69. Ça fait le Q 69.
Ou sinon il n'y a pas une adresse mail parce que si un truc de prévu le 8, moi je sais pas si on aura mis les infos avant le 8, une adresse mail où les gens qui sont intéressés ils peuvent vous envoyer pour savoir exactement où c'est à Lyon le 8, à quelle heure, enfin comment ça se passe.
Ouais, si il y a une adresse mail du collectif unitaire 69@gmail.com.
D'accord.
Tout attaché.
Eh ben merci beaucoup.
Merci.
On va laisser la place à Canu Info.
Très bien.
She has promised! Don't refuse!